France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Édouard Philippe qui demande une présidentielle anticipée, Gabriel Attal qui ne comprend plus son président, les poids lourds du macronisme se détournent d'Emmanuel Macron, le chef de l'État a jugé comptable de la crise politique alors que Sébastien Lecornu a entamé d'ultimes négociations, le Rassemblement National n'y participera pas, le RN préfère tendre la main aux Républicains pour bâtir une nouvelle majorité, page spéciale dans ce journal. Avec Rosalie Lafarge et Nicolas Ballu. Charlie Hebdo veut faire entrer Charb au Panthéon, le dessinateur tué dans l'attentat djihadiste du 7 janvier 2015. Il coche toutes les cases selon Riss, le directeur du journal. Les explications à suivre de Fiona Mogadam. La douleur, la colère et la fatigue en Israël, 2 ans après les massacres du 7 octobre 2023. La majorité des Israéliens souhaite aujourd'hui la fin de la guerre de représailles à Gaza. Un nouveau prix Nobel pour la France, Michel Devoré, prix Nobel de physique pour son travail sur la mécanique quantique. Emmanuel Macron est un homme bien seul ce soir au lendemain de la démission de Sébastien Lecornu à qui il a confié une mission de la dernière chance. Un à un, les alliés historiques du président se détournent de lui. Dernier en date, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, recommande au chef de l'État de démissionner début 2026 après l'adoption d'un budget et cela pour organiser une élection présidentielle anticipée. Hier, c'est un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui affirmait ne plus comprendre Emmanuel Macron. À l'évidence, beaucoup de macronistes ne font plus confiance à leur président pour sortir de la crise politique et ses soutiens se font nettement plus discrets. Le reportage à l'Assemblée de Rosalie Lafarge.
Ils appellent tous à faire primer l'intérêt général, mais plaident chacun pour leur solution. L'échec de Sébastien Lecornu et la conviction que rien ne sera réglé demain font se délier les langues dans le bloc central, même si personne n'assume franchement de lâcher Emmanuel Macron.
On ne fait pas trembler le président.
Au groupe Horizon, on l'assure, la demande d'une présidentielle anticipée formulée par Édouard Philippe ce matin ne vise pas à fragiliser le chef de l'État, le député Frédéric Valletoux.
L'objectif, ce n'est pas contre Emmanuel Macron, c'est pour les institutions et la stabilité du pays. L'enjeu, il est là aujourd'hui. On arrive à des blocages. Des premiers ministres qui valent, c'est des gouvernements qui ne durent pas. Donc cette instabilité-là, il faut tourner la page. La France ne peut pas s'offrir encore 18 mois de crise institutionnelle.
Hypocrisie, dénonce le camp macroniste. Certes, le chef de file Gabriel Attal a admis ne plus comprendre les décisions présidentielles, mais ça n'a rien à voir, insiste Prisca Thévenot, élu Renaissance.
Nous n'appelons pas à la démission du président de la République. Ça créerait une instabilité institutionnelle sans précédent. Nous devons apporter une solution. Pas mettre de la crise sur la crise.
Au groupe Ensemble, on milite de nouveau pour l'installation d'un ou de plusieurs négociateurs apolitiques capables de mettre d'accord les formations. Mais au Modem, on pense qu'on peut y arriver tout seul, entre élus. C'est en tout cas l'avis du député Jean-Paul Mattei.
C'est pas une question de Emmanuel Macron ou pas. Le président de la République, il était élu pour 5 ans. Moi, je ne demande pas sa démission ni son retrait. Je dis simplement, laissons faire les parlementaires. Essayer de trouver une voie, une issue à cette situation qui est bien inquiétante.
Si les formules diffèrent d'un groupe à l'autre, il n'y a plus grand monde dans le bloc central du Palais Bourbon pour défendre un président de plus en plus isolé et à qui il ne reste qu'un peu plus de 24 heures pour trouver une issue à la crise dont il ne parvient pas pour l'instant à s'extirper.
Rosalie Lafarge au Palais Bourbon. Et pendant ce temps-là, Sébastien Lecornu a entamé sa mission pour définir d'ici demain soir une plateforme d'action et de stabilité selon les termes du communiqué de l'Élysée. Le Premier ministre démissionnaire devait recevoir cet après-midi séparément les deux leaders des Républicains, le patron des députés LR Laurent Wauquiez, puis le président du parti Bruno Retailleau. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur qui propose de participer à un gouvernement de cohabitation avec la Macron. Alors, si LR accepte de discuter avec Sébastien Lecornu, le Rassemblement National, lui, refuse de se rendre à Matignon. Le RN réclame la dissolution de l'Assemblée et essaye déjà de bâtir une nouvelle majorité en cas de victoire. Son président, Jordan Bardella, se dit prêt à tendre la main aux Républicains sur un accord de gouvernement. Nicolas Ballu, bonsoir.
Bonsoir.
À l'Assemblée, les députés RN défendent plutôt des alliances au cas par cas avec les Républicains.
Disons que le RN veut susciter la tentation en dehors des logiques d'appareil. Que le Rassemblement National tente d'attirer les politiques de droite dans ses propres filets, c'est assez traditionnel. Il veut aussi profiter de la situation pour faire sauter les digues déjà ébréchées, à l'heure aussi où le patron des Républicains se retrouve en difficulté. Alors pour le député du RN Laurent Jacobelli, travailler avec Bruno Retailleau
Aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il est dedans, il est dehors, il est dans l'opposition, dans la majorité. Il a, on va le dire, trahi ses électeurs en rejoignant la Macronie. En revanche, chez les LR, puisque c'est d'eux dont vous parlez, je le vois bien, il y a des gens de conviction, des gens qui veulent plus de sécurité, moins d'immigration, qui veulent alléger le poids de cet État devenu obèse. Grosso modo, on pense à 95% pareil, que ces gens-là travaillent avec nous. On leur demande pas de trahir leur identité.
Voilà, pas question de sembler s'entendre avec la direction LR. On discute avec tout le monde, sourit évasif le député Gaëtan Dussausset qui veut croire que des majorités seront possibles une fois au pouvoir.
Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous pouvons trouver des majorités en dehors du Rassemblement National. Mais lorsque pendant un an on s'était forcé d'aller chercher ces majorités, tout le monde a fermé la porte sur le nez du Rassemblement National.
La déclaration de Jordan Bardella ce matin n'a suscité aucun écho officiel chez LR, mais il y avait ce week-end une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne. C'est le candidat UDR soutenu par le RN qui est arrivé en tête devant la candidate socialiste. Pas une voix pour la gauche a déclaré ce matin Bruno Retailleau. Ce n'est pas passé inaperçu chez Gaëtan Dussausset.
Je prends note de ce soutien non-dit, on a vu plus courageux quand même.
Soutien pour Gaëtan Dussausset, glissement selon le PS qui dénonce un pas de plus vers une union des droites.
Nicolas Ballu, merci. Sébastien Lecornu reçoit aussi les forces de gauche pour tenter de trouver une sortie de crise. Place publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann sera ce soir à Matignon. Demain, ce sera au tour du Parti Socialiste et des Écologistes de rencontrer le Premier ministre démissionnaire. Le PS qui n'appelle ni à la dissolution ni au départ d'Emmanuel Macron, contrairement à la France Insoumise qui veut même destituer le chef de l'État. Tout comme le RN, LFI ne répondra pas à l'invitation de Sébastien Lecornu pour les ultimes négociations. Cette crise politique française inquiète nos partenaires européens. Une France stable est une contribution importante pour l'Europe, avait dit hier le porte-parole du gouvernement allemand, Stefan Cornelius. La stabilité française, c'est aussi ce que souhaitent de nombreux eurodéputés, actuellement réunis en session au Parlement européen à Strasbourg. Le reportage de Fabien Cazot.
Sans gouvernement stable en France, c'est un moteur de la construction européenne qui risque de se gripper. C'est du moins la crainte de l'eurodéputé allemand centriste Jan-Christoph Eutjen, qui s'inquiète en particulier pour les sujets économiques.
On a besoin de la France pour trouver des accords au niveau européen parce que la France ne donne pas que son avis mais aussi une direction sur d'autres pays. On est actuellement dans le débat sur le budget pluriannuel pour rendre l'Union européenne plus compétitive et du coup une France qui n'est pas capable de trouver une position fera ralentir l'Union européenne.
L'incertitude politique en France tombe au plus mal selon cet autre eurodéputé roumain, Dan Barna, au moment où l'Europe fait de sa défense une priorité.
Dans ce moment où l'Europe a besoin de stabilité pour construire sa défense sur son flanc Est, la situation qu'on connaît ces jours-ci en France est inquiétante. La France est aujourd'hui la seule puissance nucléaire européenne. La France est un des piliers de la crédibilité de l'Union européenne. C'est une question sensible. Ces jours-ci, j'observe la situation en France avec beaucoup d'inquiétude. Et j'espère qu'une solution pourra être trouvée dans les prochains jours.
Quel que soit leur bord politique, les eurodéputés espèrent un retour rapide à la stabilité gouvernementale en France.
Fabien Cazot depuis le Parlement européen à Strasbourg. Un journaliste victime du terrorisme a-t-il sa place au Panthéon ? Oui, affirme la rédaction de Charlie Hebdo qui demande la panthéonisation de Charb dans son nouveau numéro à paraître demain. Le dessinateur avait été tué dans l'attaque djihadiste contre le journal il y a 10 ans. L'attentat avait fait 12 morts, dont 8 membres de la rédaction. La requête de Charlie intervient au moment où le Panthéon va accueillir jeudi Robert Badinter, l'artisan de l'abolition de la peine de mort. Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur de Charlie Hebdo, Rhys, explique dans un éditorial pourquoi il souhaite voir Charb entrer au Panthéon.
Oui, et l'idée vient d'une lettre adressée par la famille de Charb, soutenue par Charlie Hebdo au président de la République, qui demande que Charb fasse son entrée au Panthéon, et cela 20 ans après la publication des caricatures de Mahomet dans le quotidien danois Jyllands Posten, puis dans Charlie Hebdo. Pour la famille du dessinateur, cette action saluerait l'attachement de la France à la liberté d'expression ainsi qu'à l'antiracisme, à la justice sociale et à la laïcité, valeurs pour lesquelles Charb s'est battu toute sa vie, écrivent ses proches. Dans son édito, Rhys salue une idée, je cite, pas si conne. Bien sûr, on trouvera loufoque qu'un dessinateur satirique de Charlie Hebdo bénéficie d'un tel honneur, écrit l'actuel directeur de la publication de l'hebdomadaire. Mais que que transfère-t-on au Panthéon? Des hommes ou leurs idées? Leurs idées et leurs valeurs avant tout, plaide-t-il. Il rappelle que Charb était le directeur de la publication de Charlie et avait été désigné par le journal d'Al-Qaïda comme un homme à abattre. Pour Rice également, une telle panthéonisation graverait dans le marbre l'attachement viscéral du peuple français à la liberté d'expression. En y réfléchissant bien, Charb coche toutes les cases pour s'y retrouver, ajoute-t-il. Rice reconnaît que l'intéressé n'aurait certainement pas approuvé cette décision, mais d'après lui, c'est le cas de toutes les personnes qui s'y trouvent.
Fiona Mogada, merci. Quand l'Europe se mobilise pour défendre son acier, la Commission européenne annonce aujourd'hui son plan pour la filière sidérurgique, avec deux mesures pour contrer la concurrence chinoise, des droits de douane relevés de 25 à 50% et des quotas d'importation divisés par deux. Le but, se protéger face à la Chine, qui met littéralement à genoux l'industrie européenne en cassant les prix. Bonsoir Valentin Grille.
Bonsoir Stanislas.
La France figure parmi les grands gagnants de cette nouvelle réglementation.
Oui, dans le domaine de l'acier, les chiffres sont implacables. La France n'a produit l'an dernier que 11 millions de tonnes d'acier, c'est 100 fois plus pour la Chine. Et encore, souffle le responsable d'une fédération d'entreprises, c'est sans compter les capacités non utilisées. Pékin pourrait encore produire 300 millions de tonnes de plus, d'où des prix très bas face auxquels il fallait réagir. D'autant, et c'est un autre chiffre important, que la France et l'Europe produisent plus qu'elles ne consomment. Autrement dit, nous avons encore les moyens d'être souverains en rehaussant les prix et en bloquant des importations aujourd'hui exonérées de droits de douane. Bruxelles fait le bon choix pour l'avenir, souligne Éric Berger, chef de projet industrie au Shift Project.
Il est dur de penser au moyen terme quand votre situation à court terme est extrêmement difficile sur les prix et les volumes. Ça crée les conditions d'une perspective de décarbonation de l'acier européen. Et là-dedans, la France a sans doute une des plus belles cartes à jouer.
Car les industriels français, ArcelorMittal en tête, réclamaient des garanties pour investir. Elles ne sont pas toutes levées. Par exemple, il faudra s'attaquer au problème de la demande. L'automobile s'essouffle et ne commande plus assez d'acier. Mais notre électricité est abordable et décarbonée. Une aubaine dès l'année prochaine, quand l'Europe mettra en place ses quotas d'émissions. Les sites polluants devront alors payer ce qu'ils émettent et les importations polluantes seront aussi taxées. Ce cocktail réglementaire devrait encourager l'acier européen et l'acier vert français, avec de nouveaux hauts fourneaux électriques, lesquels pourraient créer de l'emploi dans un secteur qui a perdu 7% de sa main-d'œuvre européenne l'année passée. Pour cela, il fallait d'abord desserrer l'étau des prix bas imposés par la Chine. C'est chose faite, aux industriels désormais de jouer le jeu et d'investir.
Explication signée Valentin Grille. Marie Dosé, l'ancienne avocate du comédien Philippe Cobert, mise en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Eh bien, Marie Dosé a été placée en garde à vue pour altération de documents dans l'enquête visant son ex-client. Selon le quotidien Le Monde qui révèle l'information, Maître Dosé et les deux autres personnes interpellées dans cette affaire sont soupçonnés d'avoir fait disparaître un ordinateur personnel de Philippe Cobert, ordinateur dont les contenus auraient pu se révéler compromettants pour le comédien. Israël s'est arrêté aujourd'hui pour commémorer le deuxième anniversaire des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. 1219 morts, des civils en majorité, littéralement exécutés par les hommes de la milice islamiste venue de Gaza. Un pogrom pour les Israéliens et le début d'une guerre de représailles contre le Hamas. La campagne militaire israélienne a fait plus de 67 000 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, chiffre jugé fiable par l'ONU. Deux ans après, la population israélienne souhaite majoritairement l'arrêt de la guerre et le retour rapide des otages. Des négociations indirectes ont débuté hier en Égypte. Le reportage en Israël de notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud.
C'est une grande lassitude qui s'est emparée du peuple d'Israël. Même si la population reste unie derrière son armée, elle n'en peut plus de cette guerre. Damon est venu sur la place des otages. Pour lui, la guerre aurait dû s'arrêter hier, dit-il.
J'ai 57 ans, je n'ai jamais connu une situation pareille. La manière dont le monde nous regarde. J'ai un ami qui a une société informatique. Il ne dit plus à personne qu'il est israélien parce qu'il se dit que s'il mentionne Israël, personne ne voudra travailler avec lui.
Pour Damon, ce n'est plus par la guerre que l'on peut espérer libérer les otages. Cela durerait des siècles, dit-il, mais bien par la négociation. Ouzi, le père d'une victime du 7 octobre, pense aussi qu'il est temps de prendre un nouveau chemin.
Il faut arrêter cette guerre. Depuis deux ans, il y a eu tellement de morts et de blessés. Et nous avons tellement de problèmes psychologiques et économiques. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Nous devons vraiment penser à ce que doit être un nouvel horizon pour Gaza. Et je pense qu'un nouvel horizon, c'est de remplacer le Hamas par des gens qui aimeront plus leurs enfants qu'ils ne nous haïssent.
Alma est officier d'artillerie. Mes soldats sont épuisés. On est depuis trop longtemps dans la guerre. Ils ne dorment pas, tirent sans cesse des obus. C'est notre rôle en tant qu'artilleur. Mais au fond de nous, on veut retrouver une vie normale, comme avant le 7 octobre. Une vie normale en Israël, mais lorsqu'on aborde la situation des Palestiniens, la plupart des visages se ferment.
Marie-Pierre Vérot, envoyée spéciale en Israël avec Sandrine Malon pour les moyens techniques concernant les négociations qui ont débuté hier à Sharm el-Cheikh en Égypte. Aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Le Hamas et Israël ne discutent pas directement. L'Égypte joue les médiateurs. Au cœur des discussions, le plan Trump pour Gaza qui prévoit la libération de tous les otages et le retrait progressif de l'armée israélienne. Steve Witkoff, l'émissaire du président américain, est attendu demain à Sharm el-Cheikh. Aux États-Unis, Donald Trump a entamé un véritable bras de fer avec la municipalité démocrate de Chicago. Depuis des semaines, le président américain menace d'envoyer la garde nationale dans la métropole qu'il présente comme une zone de guerre. En attendant une décision de justice, les premiers militaires pourraient être déployés dès aujourd'hui dans la ville contre l'avis des élus démocrates locaux. Chicago redoute des incidents avec ce déploiement. Les précisions de Franck Madvon.
Il y a deux lectures des événements en cours à Chicago. Celle d'abord de l'administration Trump, qui décrit une ville en proie à la violence et à l'insécurité, l'une des plus dangereuses au monde, selon le président. Beaucoup trop de crimes y sont commis, les forces anti-immigration sont prises pour cible par des émeutiers, il faut donc y envoyer l'armée pour y faire régner l'ordre. De leur côté, les démocrates qui dirigent Chicago et l'État de l'Illinois ne reconnaissent pas cette ville décrite par le gouvernement. Les statistiques de la criminalité sont certes significatives, mais en baisse depuis quelques années et moins préoccupante que dans d'autres villes. Ils jugent pacifiques les manifestations contre les raids visant les immigrés clandestins et accusent la Maison-Blanche de semer le désordre pour justifier le déploiement de l'armée. Dans les faits, quelques incidents sont survenus, notamment près d'un centre de la police de l'immigration en banlieue de Chicago, mais on est loin de la zone de guerre décrite par Donald Trump, qui évoque même un possible recours à l'état d'urgence. La ville et l'Illinois ont saisi la justice pour empêcher le déploiement de 300 membres de la garde nationale. À Portland, dans l'Ouest, une juge fédérale a bloqué une décision similaire. Mais pour Chicago, la justice a fixé une audience à jeudi. La Maison-Blanche a donc les mains libres pendant 48 heures. Le gouverneur démocrate de l'Illinois, Pritzker, y voit une occasion pour Trump de provoquer le chaos.
Franck Madvon, correspondant aux États-Unis. Un nouveau prix Nobel pour la France. Le chercheur Michel Devoré a reçu aujourd'hui le Nobel de physique, considéré comme l'une des plus prestigieuses récompenses pour les scientifiques. Le physicien français partage le prix avec le britannique John Clark et l'américain John M. Martinis. Diplômé de l'université d'Orsay et de l'École nationale des télécommunications, Michel Devoré enseigne aujourd'hui à Yale, aux États-Unis. S'il décroche aujourd'hui le Nobel, c'est grâce à une découverte majeure dans le domaine de l'informatique quantique. Les explications de Guillaume Fariol.
Michel Devoré et les deux autres lauréats britanniques et américains sont récompensés pour leurs travaux en mécanique quantique. C'est une branche de la physique qui montre qu'à une toute petite échelle, échelle microscopique, certaines particules ont des propriétés très étranges. Par exemple, elles peuvent traverser une barrière physique sans être stoppées, comme si vous lanciez une balle contre un mur et qu'elles passaient au travers. Eh bien, les trois prix Nobel ont prouvé dans les années 80 que ce qu'on appelle l'effet tunnel, le fait de traverser un obstacle à une échelle minuscule, peut aussi, dans certaines conditions, se produire à une échelle plus grande. On parle d'échelle macroscopique et cette découverte, c'est une des bases qui permet de développer aujourd'hui l'informatique quantique pour fabriquer des ordinateurs quantiques à la capacité de calcul phénoménale, sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette technologie est en développement, elle doit encore faire ses preuves. Les machines aujourd'hui restent limitées, les erreurs nombreuses, mais l'informatique quantique est en plein essor. Un potentiel immense, scruté de près par l'industrie. IBM, Microsoft ou Google, les plus grands géants du numérique, investissent tous dans ce domaine.
Et pour en savoir encore plus sur ce fameux effet tunnel dans la mécanique quantique, vous pouvez réécouter la chronique d'Alexandra Delbo avec Science, actuellement en une de notre site franceculture.fr, à retrouver également sur l'application Radio France. Le temps demain, le soleil s'imposera partout ou presque après les grisailles matinales. Ces nuages bas seront tenaces vers le Val de Saône et le Nord-Est. Demain matin, il fera entre 3 et 12 degrés en général. L'après-midi, grande douceur avec des températures comprises entre 16 et 25 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia à la technique Nicolas Bonnet.